Mon cher Amos, mon très très cher, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Changer de pays, j'y pense parfois, mais pour aller où? Pour moi, il n'y a sans doute pas d'autre lieu, mais l'inquiétude me ronge. Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes? La chair de notre chair qui est restée, qui vivait, le rêve déçu. Surmontrez-vous les ténèbres qui nous enveloppent. Porte-toi bien, maman.
Chantal Loro.
Amos Gitaille et Michel Escaut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Amos Gitaille, vous êtes réalisateur, documentariste, metteur en scène israélien. Votre dernière création, House, est à voir jusqu'au 13 avril au Théâtre National de la Colline à Paris. Une pièce chorale dans laquelle vous jouez, Michel Escaut. Vous êtes l'un des plus grands comédiens français. Vous avez beaucoup travaillé avec Luc Bondy. Pascal Paradou, vous avez reçu l'été dernier à Avignon pour Richard II, sous la direction de mise en scène par donc Christophe Rauque. Et on vient de vous voir au cinéma dans le film « Les Amandiers » de Valeria Bruni-Tedeschi. Amos Gitaille, pourquoi avez-vous eu envie de transposer sur scène l'histoire sur un quart de siècle de cette maison de Jérusalem-Ouest, maison qui était au cœur déjà de votre trilogie documentaire « House » en 1980, « Une maison à Jérusalem » en 1997 et « News from Home, News from House » en 2005. Est-ce que vous aviez le sentiment d'un travail inachevé ?
Non, chaque film il est autonome, il est plutôt pas mal, on peut dire. Non, mais je trouve qu'il y a un engagement civique, qu'il faut reparler des questions que le centre de conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire c'est le rapport d'attachement de deux groupes vis-à-vis de la même terre. Alors, vous avez dit que je suis cinéaste et documentariste, je suis seulement architecte d'origine. Alors, je sens très libre de faire tout ce que j'ai envie de faire. L'idée de transposer des travaux cinématographiques au théâtre était un challenge qui m'a touché beaucoup. J'ai adoré travailler au Théâtre de la Colline avec toute l'équipe de Wajdi Mouad, avec un groupe de comédiens fabuleux, Irène Jacob, Misha Escaut, des trois comédiens palestiniens, des comédiens israéliens, des musiciens iraniens, c'est-à-dire tous les gens qui bagarrent dans mon belle région, ils sont là sur le plateau.
Comment vous les avez choisis et comment
parce
on crée
excellent, c'est tout.
Et comment on crée une équipe soudée avec des acteurs qui viennent d'horizons si différents et qui parlent aussi plusieurs langues. C'est dans votre pièce, on parle arabe, hébreu, yiddish, français, anglais. Est-ce que c'est plus compliqué pour travailler tous ensemble?
Moi, je trouve, pour faire référence, Chantal, tu as commencé avec les lectures de Jeanne Moreau, de l'aide de ma mère qui m'adresse. Alors, Jeanne Moreau, elle m'a appris que comme elle fait une pièce de théâtre ou un film, parce qu'elle a envie d'apprendre quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Et je crois que les gens de très bon niveau, comédiens, musiciens, arts plastiques, lumière de Jean Calment, tous ces gens magnifiques qui partagent avec moi cette création, ils ont envie de découvrir quelque chose, de faire un voyage vers l'inconnu. Et cette sorte de petit groupe qu'on a, on adore venir chaque soir. Et même les racontes humaines, on est en train de complémenter des choses qu'on ne connaît pas vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est toujours la base d'un bon travail.
Alors pour House, la scène du Théâtre de la Colline est devenue un gigantesque chantier avec d'immenses échafaudages d'acier de part et d'autre. Et au premier plan, dans la poussière, deux ouvriers arabes, truelles à la main, qui construisent, qui cimentent un pan de mur. La maison dont vous aviez fait presque un personnage de cinéma dans la trilogie, on ne la voit pas, ce sont les récits, les témoignages, la mémoire de ses occupants successifs qui la font exister. Pourquoi ce parti pris de mise en scène ?
מה שטוב, כאון הבוקו הזיתה פה לדקור, אז כאון קונסטרוי דמיור, etc. פינלמה, כאום סן שנטייה, כאום תו עדי, שנטה לתא פרימייר קסטיון, פורקווה זה טרנספוזי סאו תיאט, סתדיר, סט פרוג'י לאנקור אין שנטייה לייב, סתדיר, און דקוב, און אנטרן דה ראינסטלי, אנוטרי פאז, אנוטרי קוש, דה סט פרוג'י תיאטרל, שטרוב כאילו שנטייה זה... Pour le chantier, cet échafaudage, c'est la base des constructions.
Michel Esco, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet d'Amos Gitaï?
Moi, j'avais envie de travailler avec Amos parce que je l'avais rencontré, je connaissais son travail et puis il m'a promis plein de trucs et il tient ses promesses. Alors, je suis heureux de cette collaboration. Mais je venais, comme il a parlé de Jeanne Moreau, modestement, hein, mais je venais apprendre des choses que je ne connaissais pas et je voulais... pas travailler comme d'habitude. Je voulais faire un travail d'incarnation différent. Et peut-être, parfois, j'arrive avec beaucoup de matière, moi, quand je viens m'engager dans une pièce. Et là, je lui ai dit, je suis vierge. Enfin, je ne sais pas. Et il faut que tu m'apprennes plein de choses. Tu vas être mon guide et je serai disponible. Et ça m'intéresse aussi par rapport à mon histoire personnelle, mes origines, tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai été avec Irène, Jacob. On a passé une semaine là-bas.
Là-bas, c'est Tel Aviv.
À Tel Aviv et à Jérusalem. Et déjà, le travail avait commencé très concrètement. Et en fait, j'ai eu la même sensation après, en revenant à Paris, avec les gens qu'il avait réunis, avec ses actrices, ses acteurs, ses techniciens. C'est resté comme ça. Je suis resté dans le même état d'intérêt, de disponibilité et d'avoir vraiment un truc d'apprentissage, quoi. Je voulais vraiment apprendre quelque chose que je ne savais pas. Et voilà, donc j'ai essayé de garder ça le plus possible. Et c'est très agréable parce que comme on est bien entouré et bien guidé, c'est bien d'apprendre des choses comme ça.
C'est vous qui avez choisi le rôle de Michel Kishka, cet artiste qui a quitté Bruxelles pour venir s'installer en 1978 à Jérusalem ?
Oui, c'est moi, quand j'ai vu les trois films, j'ai dit à Amos, j'aime la manière dont il s'exprime. On peut ne pas être d'accord forcément avec ce que les gens disent. Après, il y a des gens qui vous séduisent par leur expression, par leur... je le trouvais assez clair dans ce qu'il disait. Enfin, j'aimais sa manière de parler, en fait. J'aimais sa manière de parler, de s'exprimer.
Et bien justement, on va vous écouter dans un extrait de la pièce.
Moi, quand je suis venu acheter cette maison... En 1978, il y avait encore une cuisine que je partageais avec un autre voisin. Et la première chose que nous avons faite a été de la séparer en deux, une moitié pour lui, une moitié pour moi, afin que nous puissions vivre normalement. J'ai jamais vraiment cherché à savoir qui habitait dans cette maison avant. Je ne sais pas pourquoi. Disons que j'ai jamais vraiment fait de recherche à ce sujet. Ah oui, ça serait intéressant de savoir, bien sûr, parce que chaque maison ici a son histoire. Et je le ferai peut-être un jour. Dans des enfants. C'est vrai, il suffirait que j'aille à la mairie, demander une liste, vérifier qui habitait ici avant, quel était son nom. Mais je connais des histoires sur la rue. Et depuis, les maisons ont été achetées, transformées. La population a changé. Des étages ont été ajoutés. Quant à la population elle-même, la population est devenue très anglo-saxonne. Ce n'a pas toujours été le cas. Et en raison de la colonie allemande, tout le quartier est devenu très recherché. Et en raison de son caractère particulier, les prix ont augmenté et seule une population aisée, principalement anglo-saxonne, qui a immigré avec les capitaux, peut se permettre de vivre ici.
Michel Esco, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on sent pas mal de distance par rapport à l'installation des Juifs et des Juifs aisés dans ce quartier à l'origine arabe. Vous avez travaillé ce ton un peu détaché ?
Oui, un petit peu. Enfin, disons que c'est comme ça qu'il s'exprimait dans le film. Et puis, mais ma question, c'était pas de savoir est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas raison. C'est des histoires, en fait. Et moi, je suis un messager, enfin je ne suis pas un vecteur pour que transmettre cette histoire-là. Je n'ai pas à dire je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord. Moi, je défends forcément les personnages que je joue, même si idéologiquement, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, ça m'intéressait qu'il y ait ce témoignage-là avec un autre avant et un autre après. Je trouvais que c'était ce mélange qui était très intéressant. Donc oui.
Pour Michel Kishka, la guerre du Kippour, il le raconte à un autre moment, a été un détonateur. Elle m'a fait comprendre où était ma place, où j'allais faire mon destin. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour lui aussi de gérer, entre guillemets, la mémoire de sa famille victime de la Shoah ?
Oui, bien sûr. Oui. C'est un événement qui le marque et il prend une décision par rapport à ça. Il est surpris lui-même, il dit qu'il ne s'attendait pas à vivre ici et puis que ça l'a fait changer d'avis. Je peux entendre ça, enfin, je veux dire. En tout cas, c'est intéressant d'entendre cette parole-là. Oui.
Amos Gitaï, en quoi cette pièce est-elle une métaphore du conflit israélo-palestinien ?
Parce que, comme l'a dit Micha, c'est une sorte de juxtaposition des séries de personnages. Et c'est pour ça que le personnage qui est joué par Micha, il est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a... de toute façon, si on parle de ce conflit, il n'y a pas d'angélisme dans ce conflit. Et il faut arrêter de faire d'angélisme. Parce que si on prépare l'angélisme, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire que les gens, ils sont contradictoires. Et on a une histoire de contradiction. Alors, c'est vrai qu'Israël occupe le territoire palestinien. C'est une réalité aussi. Alors, moi, j'ai envie de construire des séries de personnages qui inspiraient, bien sûr, de cette trilogie, de cette... personnage réel magnifique qui était généreux avec moi, qui existe dans les trois films, que d'ailleurs ils sont montrés actuellement au Festival de Réel, aussi à Paris. Je trouve que le conflit israélo-palestinien qui maintenant, on peut dire, qui dure presque 100 ans, presque notre guerre de 100 ans, c'est énorme, il continue parce qu'il n'y a pas l'acceptation de l'autre, les bases d'un accord de paix comme l'amour, qu'on accepte de l'autre, ce n'est pas un rapport unilatéral. Si nous, les Israéliens, on pense strictement de notre histoire, les Shoah, les tragédies, les discriminations, etc., mais on ne donne pas un espace aussi aux tragédies de l'autre, on ne va pas avoir la paix. Et la même chose vis-à-vis des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une reconnaissance de l'autre pour apaiser ce conflit. Alors, je suis sûr que l'art, le théâtre, le cinéma, la littérature ne changent pas le réel. Mais il faut commencer quelque part. Il faut parler, il faut exposer cette série de contradictions. Et je crois que c'est ça qu'on fait à la colline.
On a entendu tout à l'heure, juste avant le générique de l'émission, la voix de Jeanne Moreau lisant une lettre que vous avez envoyée à votre mère. C'est avec les images de cette lecture que s'ouvre votre pièce. Changer de pays, j'y pense parfois, mais pour aller où ? Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes qui vivez le rêve déçu ? Surmonterez-vous les ténèbres qui nous enveloppent ? Est-ce qu'à travers House, vous tentez de répondre à ces questions qui ont été posées par votre mère il y a fort longtemps déjà ?
Moi, je pose d'autres questions, c'est-à-dire c'est dans le bon dialectique juif et talmudiste, on répond à sa
question
par une autre question, et c'est des séries de questions. Et je crois que c'est le travail des spectatrices et des spectateurs de devenir de l'interprète, pas de consommateur, mais d'interprète, que comme la pièce est finie, c'est-à-dire moi je dis souvent que comme je vois un film que j'adore, le film commence quand la projection est terminée. Je promène avec cette série d'images et de discours, il faut que je restructure dans mon cerveau. Je crois qu'il faut poser cette question.
Micha Lescaut, tout à l'heure vous avez dit que vous aviez vu la trilogie d'Amos. Qu'est-ce que le théâtre permet que le cinéma ou le documentaire ne permet pas ? C'est quoi le plus du théâtre ?
Ça se passe maintenant. Ça se passe aujourd'hui. Et j'ai tout de suite senti que cette histoire, par exemple au théâtre, elle aurait une autre temporalité. Enfin, il y aurait quelque chose d'actuel. Je ne me suis pas dit, est-ce que c'est encore actuel ou pas ? À partir du moment où on le fait maintenant, c'est forcément actuel. Et par exemple, dans le film et sur scène même, il n'y a pas énormément d'interaction entre les gens.
Il n'y en a même pas du tout sur scène.
Il y en a un petit peu.
Presque pas.
Presque pas. Mais nous, on travaille ensemble. Vraiment. Et on rejoue ça. Donc, on est des acteurs français, israéliens, palestiniens, un musicien iranien, russe. Et on est ensemble quand on répète. Donc, on n'est pas comme les gens du film. C'est-à-dire, on est des interprètes. Et nous, on a passé des mois ensemble, en fait. Et là, on se parle. Alors, tout ce que vous ne voyez peut-être pas sur scène comme interaction, on l'a en coulisses. Et ça nous nourrit pour arriver à le faire et à le faire tous ensemble. Et on salue tous ensemble. On tape sur des bâtons tous ensemble, on danse ensemble. Donc, ça fait quand même quelque chose qui n'est pas forcément idyllique, mais en tout cas, il y a une vraie rencontre, il y a un vrai échange. Moi, je pense que déjà, il y a ça.
Il a signé les plus belles chansons de Jeanne Moreau, on y revient. Le tourbillon de la vie et la mémoire qui flanche. Serge Rezvani est de retour à 95 ans avec un nouvel album, Chanson pour Lula. Il y prête sa plume à la nouvelle génération. On va écouter Ludivine HH pour une Marseillaise amie.
Allons enfants de toutes les patries, l'intelligence doit triompher contre nous de la tyrannie. Nous nous sommes jadis délivrés, nous nous sommes jadis délivrés. Entendez-vous par la planète gémir tant de peuples opprimés, gronder tant de peuples entravés de leur liberté, faire la conquête. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Chantons, chantons qu'un chant commun dessine notre destin. Que veulent les peuples de la terre si ce n'est une juste équité? Des lendemains où la misère ne sera pas leur sort obligé, ne sera pas leur sort obligé. Ces multitudes qui aujourd'hui errent sans fin sous nos yeux détournés, ces multitudes mises de côté, qui elles aussi ont droit à cette terre. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Chantons, chantons qu'un chant commun dessine notre destin. De toi, planète amie, planète bleue, planète de vie, contre nous de notre folie, arrêtons de nous entre-détruire, arrêtons de nous entre-détruire, que ne tombe une nuit éternelle sur cette terre que nous devons chérir. À nos enfants, ne léguons pas le pire d'un monde en train de se détruire. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Chantons, chantons, et qu'un air impur n'abreuve plus nos poumons.
Pour une Marseillaise amie, Serge Rezvani et Léopoldine, et non pas Ludivine, Léopoldine HH dans De Vive Voix sur RFI. Amos Guitaï, Michel Esco, que pensez-vous de cette Marseillaise
magnifique,
revisitée?
Très, très beau.
Très beau, oui, oui. Moi, je ne connais même pas les vraies paroles de la Marseillaise en entier. C'est vrai, je n'écoutais pas ça quand j'étais petit. J'écoutais le chant des partisans ou l'affiche rouge d'Aragon par Léo Ferré. Mais voilà, c'est ça mes chansons de quand j'étais petit. Mais ouais, c'est très bien, très bien. C'est moins violent.
Amos, la musique occupe une place importante dans votre pièce House, qui se joue donc en ce moment au théâtre de la Colline à Paris. Cette musique, elle reflète la richesse et la diversité aussi de tout le Moyen-Orient. Est-ce que la musique permet un dialogue que la parole n'arrive pas à nouer?
Bien sûr, parce que si tu vas Kiomar Mouassabé, iranien, qui joue un spectacle qu'elle met en scène israélien, c'est-à-dire c'est par définition c'est des États qui sont en guerre féroce. Et là, on traverse les frontières. On dit c'est une grande civilisation, la culture iranienne, et on va travailler, on va créer ensemble. Alexei Kotchakov, que j'ai fait beaucoup de travail avec lui aussi, Théâtre de la Ville, Festival d'Avignon et autres. Et aussi, c'est-à-dire la rive de la Russie, passe par Israël, habite à Berlin. Et c'est lui qui m'a amené et qui Omar, c'est-à-dire c'est l'Israélien qui amène un Iranien sur le plateau. Alors, moi j'adore pour moi, les spectacles que j'aime bien, c'est-à-dire que chaque élément, chaque ingrédient, on peut dire, il est autonome. Il a sa propre personnalité. La musique, elle ne va pas avoir un rôle d'illustration. Elle est une existence autonome. Et après, c'est un dialogue entre des éléments visuels, des quelques vidéos, pas trop, très belles lumières, bien sûr, les comédiens, les discours, les narrations et la musique.
Les Palestiniens, on entend leur colère, leur sentiment d'injustice, leur peur aussi, via les personnages des deux tailleurs de pierre. C'était un quartier arabe, maintenant les habitants sont juifs, ce qui s'est passé me brise le cœur. Cette maison appartient au docteur Dadjani, ça me bouleverse de construire une maison sur le reste d'une autre, dit l'un. Dans mon village, dit l'autre, on a un champ, mais les colons veulent me le prendre. Le terrain est enregistré au nom de mon père, la sueur de mon père, le sang de mon père est mêlé à cette terre, je les hais comme ils me haïssent. Comment dialoguer quand la haine est si vive et quand les points de vue sont aussi diamétralement opposés? Je vous pose la question parce que, comme on le disait tout à l'heure avec Michel Escaut, chaque acteur incarne donc un ou plusieurs personnages qui ont tous un lien avec la maison ou le quartier, qui ont chacun leur histoire, leurs souvenirs, leur perception. Les récits se succèdent, mais ils ne se parlent pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas imaginé de dialogue entre eux?
Parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est la tragédie actuelle du Moyen-Orient, c'est des monologues. C'est-à-dire chaque groupe avec sa propre vérité, propre tragédie, propre mémoire. Mais il n'y a pas, c'est ça que je dis tout à l'heure, il n'y a pas l'acceptation de l'autre. Et je crois que nous, il faut qu'on reste sensible aux souffrances palestiniennes, parce que l'occupation israélienne, et même cette nuit, il y avait des buildings qui étaient brûlés dans un village palestinien. Discuter, il faut exposer cette question. Mais par instant, il n'y a pas de dialogue. Alors, il ne faut pas faire un fake avec plein de crèmes, de kitsch, etc. Mais il faut. Je crois que c'est ça la force de ce spectacle.
C'est de poser un regard sur la réalité, même la réalité qu'on n'a pas envie de voir.
On a envie de la voir parce qu'il faut qu'on le voie. C'est obligatoire de la voir. On ne peut pas.
Que peut-être tous les Israéliens n'ont pas envie de voir.
Je crois que l'évolution de l'histoire, c'est-à-dire comme j'ai fait le premier film, il y a 43 ans, c'est long, en 1980, les situations étaient différentes, c'est-à-dire il y avait une négation complète des Israéliens de savoir que cette mémoire palestinienne existe, c'est pour ça que le film était censuré. Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus là, mais politiquement on a fait un recul important, c'est-à-dire les possibilité de recréer un dialogue, elle était brisée, surtout avec l'assassinat de Rabin, qui était un autre sujet que je travaillais.
Ici, il y a beaucoup de solidarité. Par exemple, dans un pays qui est dans un état de guerre permanent, tout le monde n'est pas anti-arabe ou raciste. Beaucoup de gens rejettent le racisme. Et je trouve que c'est formidable. Voilà comment ça s'est passé. Nous avons acheté cet endroit il y a 17 ans. Maintenant, tout le monde parle tellement de Jérusalem, c'est difficile, c'est pas réaliste. C'est comme être ensemble, coexister. Nous n'avons pas besoin de je ne sais pas, de drapeau, de langue, je ne sais pas. Les gens disent que ce n'est pas réaliste, mais moi je pense que c'est plus réaliste que la guerre. C'est ce que nous espérons. En plus, c'est plus riche, c'est plus satisfaisant quand il y a différentes cultures, quand il y a un assortiment de cultures, quand il y a plus d'une langue. On peut partager. C'est plus positif.
Nous n'avons pas besoin de drapeaux, coexister est plus positif que la guerre, dit le personnage incarné par Irène Jacob. Amos Gitaï, vous gardez l'espoir d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens, même si celle-ci paraît pour le moins improbable en ce moment. Est-ce que vous croyez encore à la paix ou est-ce que c'est devenu une utopie aujourd'hui?
Moi, je vais citer le maire de Nablus que j'ai interviewé dans mon film Journal de campagne. Chantal, je lui posais la même question que toi, que tu m'as posée. Je lui ai dit, c'était Bassam Chaka. Je lui ai dit, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Alors, j'ai adoré sa réponse. Il a dit, c'est trop luxurieux d'être pessimiste. On ne peut pas se permettre. Et je crois que c'est vrai. Comme toi, au milieu de conflits et de situations de guerre, il faut garder l'optimisme parce que c'est ça qui donne l'énergie de sortir de cette phase. Sinon, on devient nihiliste, on accepte les choses. Alors, gardons l'espoir, même si on a des jours assez noirs. Mais il faut garder les perspectives.
Michel Esco, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez envie d'apprendre. Qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert de la complexité du conflit israélo-palestinien en participant à cette pièce ?
Moi, je ne comprenais pas exactement. Enfin, je crois que c'est très dur de comprendre le conflit israélo-palestinien de France. Et quand j'étais là-bas, j'ai encore moins compris. Mais j'ai ressenti plein de trucs, plein de choses. Et ça m'a passionné. Et j'étais très, très... un peu bouleversé même par ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti là-bas. Alors après, pour garder cet état-là, j'ai proposé à Amos de faire... Enfin, il m'a proposé un des rôles et je lui ai dit, je vais le faire en hébreu. Mais je n'avais pas le temps d'apprendre vraiment l'hébreu. Donc, j'ai appris phonétiquement. Mais c'était un pas vers aussi cette culture, ce pays. Et j'ai adoré faire ça. Donc, j'ai appris avec quelques personnes qui m'ont aidé. Mais... Donc, voilà. Donc, et puis, j'ai rencontré des gens aussi, des acteurs que je n'aurais pas pu rencontrer d'une autre manière. Enfin, je veux dire, les acteurs palestiniens, palestiniennes. Enfin, donc voilà, tout ça. Et puis, c'est aussi une atmosphère, un climat. Par exemple, il y a eu un jour où c'était incroyable. C'était une des dernières répétitions. Et on a joué un peu comme on joue en France, c'est-à-dire un peu efficace, un peu trop rapide. Et Amos, il nous a arrêtés tout de suite. Il a dit, c'est l'Orient. Je parle de l'Orient. Donc, on va recommencer, on va prendre son temps. Et ce n'est pas le même temps qu'en France, ce n'est pas tac-tac-tac efficace. On va faire une autre manière de jouer et c'est ça qu'on va donner aux spectateurs français de la colline qui vont venir voir le spectacle. Et j'ai adoré cette indication et je vais essayer de la garder jusqu'au bout parce que c'est très juste.
Amos Gitaï, depuis 12 semaines, Israël est en ébullition. Des centaines de milliers de personnes manifestent chaque samedi pour rejeter la réforme de la justice voulue par la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir. Un vent de révolte qui a fait plier Benjamin Netanyahou. Hier soir, le Premier ministre israélien...
Il n'est pas vraiment plié, hein.
Enfin, il s'est courbé, on va dire qu'il s'est courbé un petit peu. Il a annoncé que la réforme de la justice était suspendue, mais pas retirée. Donc ça veut dire que la bataille doit continuer ?
Bien sûr, bien sûr. Et mes collègues là-bas, ils sont très créatifs. Et c'est des secteurs complets de la société israélienne, des gens de high-tech qui fournissent vraiment presque 50% des exports israéliens, c'est high-tech, c'est les matières de cerveau, c'est les soldats, les officiers qui refusent de servir en dictature. Et Netanyahou, c'est un mec qu'il ne faut pas lui croire en seconde, parce que même il a dit les choses que vous venez de citer hier, et ce matin, ils sont passés encore des lois, par exemple, qu'on n'a pas le droit d'amener les pains dans l'hôpital pendant Pessah, pendant les fêtes. C'est-à-dire qu'il a continué, il a une perspective idéologique qu'il veut forger sur ce pays, qui est un pays avec ses propres contradictions, d'ailleurs comme la France. Mais en France, il y a un component important d'extrême droite, on va voir ce qui va passer, mais Israël aussi. Alors, je crois qu'il faut rester méfiant, il faut voir la paix, il faut être préparé pour continuer à lutter pour les idées.
Vous avez envie de les rejoindre sur place, ceux qui manifestent, qui se battent en ce moment ?
Moi, j'ai très envie, et mon fils est là-bas, ma petite-fille Esther, elle est dans les manifs, mais j'ai un engagement vers des comédiens que j'adore, que j'aime. Et il faut que je reste avec eux par instant. Mais je vais y aller.
Merci beaucoup Amos Gitaï et Michel Esco d'avoir été nos invités. House se joue jusqu'au 13 avril au Théâtre National de la Colline à Paris. On peut voir aussi Amos Gitaï votre trilogie documentaire samedi 1er avril au MK2 Beaubourg. Et je signale que vous donnez une masterclass ce soir à 20h au MK2 Gambetta. Merci à Guillaume Ploquin à la réalisation et à Raphaël Plusva à la programmation.